Le journal est présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Édouard Philippe instaure un âge d'équilibre et provoque la colère de la CFDT. Le Premier ministre a présenté et justifié sa réforme des retraites aujourd'hui. Laurent Berger, le patron de la CFDT, réclame le retrait de cet âge pivot à 64 ans. Dossier dans ce journal avec Isabelle Raymond et notre invité Didier Aubert, secrétaire général de la CFDT Cheminots. Vers de nouvelles élections législatives en Israël, les partis politiques ont encore une petite heure pour former un nouveau gouvernement, mais il est sans doute déjà trop tard. Frédéric Mettezo nous appellera de Jérusalem. Roman Polanski nie les accusations de viol portées contre lui. Le réalisateur franco-polonais s'exprime pour la première fois dans les colonnes de Paris Match. Nous ferons le point avec Anne Chepeau. Le gouvernement n'a pas l'intention de reculer sur la réforme des retraites. Le Premier ministre l'a répété ce soir sur TF1. On va y revenir dans un instant. À la mi-journée, le locataire de Matignon avait enfin dévoilé l'architecture de la réforme. Deux grands principes à retenir. La mise en place d'un régime universel par points et l'instauration d'un âge d'équilibre, 64 ans, à partir duquel on pourra prétendre au taux plein. Voyons avec vous, Isabelle Raymond, le détail des annonces du Premier ministre.
Ne sont pas concernés par la réforme tous ceux qui sont nés avant 1975. La génération 75 commencera à cotiser dans le nouveau système à partir de 2025 et conservera tous ses droits acquis avant. Les plus jeunes, la génération 2004 sera la première à ne connaître que le nouveau système universel à points. Ce sera à partir de 2022 et cela rendra la réforme irréversible. Pas de détails sur les régimes spéciaux. À peine le Premier ministre a-t-il dit qu'ils allaient disparaître progressivement, même si il a précisé que tous ceux qui sont à moins de 17 ans de la retraite aujourd'hui ne seront pas concernés par la réforme. Pour les cheminots, cela signifie une entrée dans le nouveau système à partir de la génération 80 pour les non-roulants, les guichetiers donc, 85 pour les roulants, c'est-à-dire les contrôleurs et les conducteurs de train. Les salaires des profs seront revalorisés progressivement à partir de 2021. Le montant de leur pension sera sacralisé dans la loi. Le principe d'un âge pivot, lui, sera mis en place à 64 ans à partir de 2027, avec un système de bonus-malus. Le gouvernement veut aller vite avec un projet de loi présenté en Conseil des ministres dès le 22 janvier pour être débattu par le Parlement fin février, c'est-à-dire avant les élections municipales.
Isabelle Raymond. Et ce soir sur TF1, Édouard Philippe s'est déclaré ferme sur le principe de la réforme, mais pas fermé à la discussion avec les syndicats, pour reprendre ses mots. Tout le monde sera gagnant avec la réforme, a ajouté le Premier ministre. Édouard Philippe qui a défendu la mise en place de ce fameux âge d'équilibre à 64 ans.
Notre projet, ça n'est pas d'augmenter l'âge légal de départ à la retraite. Ce que nous croyons, c'est que nous avons tout intérêt à créer un système de liberté et de responsabilité. L'âge légal ne bouge pas à 62 ans, donc tout le monde peut partir à partir de 62 ans. Mais pour que le système s'équilibre, pour que les pensionnés reçoivent des retraites justes et que les actifs puissent payer ces retraites justes, il faut un âge d'équilibre du système et un âge de responsabilité individuelle. Vous partez avant, c'est vrai, vous avez un peu moins, un malus. Vous partez après, vous avez un bonus et vous avez beaucoup plus. Pour beaucoup de Français, l'instauration d'un âge à 64 ans en 2027, c'est une incitation très forte à travailler plus longtemps. Mais pour beaucoup de Français et de Françaises, ce sera aussi une possibilité de travailler moins longtemps. Je vous ai évoqué ce cas auquel je tiens, de celles et ceux, souvent celles, qui doivent aller jusqu'à 67 ans, dans le système actuel, pour avoir une retraite sans décote. Celles-là et ceux-là, à 64 ans, ils auront une retraite entière, ils auront gagné 3 ans de travail.
Édouard Philippe, ce soir sur TF1, il répondait à Gilles Boulot. L'instauration de cet âge d'équilibre est un pari risqué pour le gouvernement. Première conséquence, ce soir, deux syndicats réformistes ont choisi de rejoindre la mobilisation contre la réforme. La CFTC et surtout la CFDT appellent à manifester mardi 17 décembre à Paris avec les autres syndicats. Dans le journal de 20h de France 2, Laurent Berger, le patron de la CFDT, a appelé le gouvernement à revenir en arrière sur l'âge d'équilibre. Invité de ce journal, Didier Aubert, secrétaire général de la CFDT Cheminots. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Didier Aubert, je le disais, le patron de la CFDT, Laurent Berger, estime qu'une ligne rouge a été franchie avec la mise en place de cet âge pivot de 64 ans. Pourquoi est-ce inacceptable selon vous ?
Bah parce que c'est encore une fois de plus une réforme paramétrique. On va changer les limites de droit au départ à la retraite. C'est-à-dire que des gens qui auraient pu prétendre partir à 62 ans parce qu'ils avaient leur durée de cotisation vont être pénalisés par une décote de 10% alors qu'ils pouvaient prétendre à une retraite. Et ça, c'est totalement injuste parce que ça va pénaliser ceux qui ont commencé à travailler de bonne heure et qui pouvaient espérer partir à 62 ans. Ils seront pénalisés, ils devront attendre 64 ans pour ne pas l'être, à travers une décote. Pour nous, c'est pas admissible.
S'agissant des régimes spéciaux, Matignon vient de confirmer que les conducteurs SNCF et RATP seront concernés par la réforme à partir de la génération née en 1985. Est-ce que c'est un point positif pour vous ?
C'est d'autant plus grave si c'est les conducteurs. Ça vient de rajouter 20 000 cheminots supplémentaires dans le dispositif. C'est-à-dire que c'est près de 50 000 cheminots qui vont être versés dans le régime universel. C'est près d'un cheminot sur deux à la date de 2025. Et ça, c'est pas admissible. C'est même, ça va réalimenter la mobilisation, hein, ça c'est clair.
Si l'on vous suit, Didier Aubert, vous rejetez en bloc le discours d'Édouard Philippe ?
Je rejette pas en bloc, je rejette les dispositions concernant les cheminots parce qu'ils avaient créé un groupe fermé en disant aux cheminots qu'ils leur maintenaient leur statut en 2018 et qu'aujourd'hui, c'était un mensonge, il n'y a pas de parole républicaine. Donc nous, on continue à demander la clause du grand-père pour l'ensemble des cheminots au statut d'aujourd'hui et avec éventuellement une clause, un droit d'option qui leur permettrait, s'ils le désiraient, de basculer dans le régime universel s'il y avait intérêt, mais qu'il est hors de question pour nous d'accepter qu'un cheminot sur deux et qu'on sacrifie les plus jeunes d'entre nous sur l'autel de cette réforme.
Édouard Philippe dit que sa porte est ouverte et sa main tendue. Qu'est-ce que vous attendez précisément du Premier ministre ?
Eh ben nous, on dit notre porte est ouverte et notre main est tendue aussi.
Didier Aubert, en attendant, la grève continue avec tous les autres syndicats, la SNCF ?
Ah ben, c'est clair que la grève continue sur la base de nos revendications, en même temps que les autres syndicats, pas sur les mêmes revendications, vous l'aurez compris, mais déterminés à conduire le mouvement pour obtenir satisfaction.
Oui, parce que vous n'avez pas la même position que la CGT au Sud qui, eux, réclame le retrait pur et simple de la réforme.
Oui. Non, parce que cette réforme, les revendications de la CFDT, c'est de corriger un certain nombre d'inégalités aujourd'hui, hein, liées aux basses pensions, liées aux carrières pénalisantes qu'ont les femmes. Aujourd'hui, 80% des femmes, 80% des salariés qui ont 67 ans sont des femmes. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, ce système de retraite génère des inégalités, génère des retraités pauvres et qu'il y a lieu de corriger cet état de fait. Donc on n'est pas pour le statu quo, bien entendu. Par contre, on n'est pas pour n'importe quoi non plus. Et on écarte toute réforme paramétrique qui viserait à rallonger la durée de travail des salariés.
Didier Aubert, une grève dure dans les transports peut vous rendre impopulaire dans l'opinion. C'est un risque que vous assumez à la CFDT Cheminots ?
Je pense que l'impopularité, le gouvernement a plus de risques que nous d'être impopulaire parce que c'est lui qui est le responsable de cette grève et que nous avions proposé il y a déjà plus de 50 jours, nous avions fait des propositions au gouvernement pour que nous n'entrions pas dans le conflit. Manifestement, il ne nous a pas écoutés. Et là, avec l'intervention de M. Philippe, le gouvernement risque de mettre les seules organisations qui voyaient d'un œil, je dirais, plus favorable cette réforme, également dans la rue. Donc son opération de communication d'aujourd'hui, elle est plus négative que positive.
Vous dénoncez l'attitude d'Édouard Philippe dans sa façon de discuter avec vous, notamment avec vous, la CFDT ?
Je dirais que je ne sais pas si c'est M. Philippe, si c'est M. Macron. En tout état de cause, ce qu'on a, c'est qu'on conteste la méthode qui vise rarement à avoir un interlocuteur mandaté en face de nous et qu'on est dans de l'approximation, de l'amateurisme, voire dans certains cas de la compétence. Et ça, c'est problématique. Quand on veut être dans une négociation, on sait de quoi on parle et manifestement, quelquefois, nos interlocuteurs ne le savent pas.
Quel serait justement le bon interlocuteur pour vous aujourd'hui pour sortir de ce conflit ?
C'est une question qu'on se pose aujourd'hui parce que effectivement, on avait fondé beaucoup d'espoir sur l'intervention de M. Philippe aujourd'hui. Des arbitrages, qu'est-ce qui nous reste ? M. Delevoye a été disqualifié. M. Philippe aujourd'hui vient de le faire. Il nous reste quoi, le président en voie de recours ?
Vous souhaitez qu'Emmanuel Macron s'exprime ?
Je pense qu'il devra sortir du bois un jour ou l'autre, surtout si le conflit dure. c'est certain.
Didier Aubert, secrétaire général de la CFDT Cheminots, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Demain, la grève continue dans les transports. À la SNCF, il y aura un TGV sur 4 et 40% des TER en circulation. Du côté de la RATP, 10 lignes du métro parisien resteront fermées. Les deux lignes automatiques fonctionneront normalement, mais avec un risque de saturation aux heures de pointe. Sauf rebondissement de dernière minute, les Israéliens pourraient bien retourner aux urnes en mars prochain. Ce seraient les troisièmes élections législatives en moins d'un an. Les partis politiques israéliens avaient jusqu'à ce soir pour former un gouvernement. Nous sommes en ligne avec Frédéric Mettezo en direct de Jérusalem. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Frédéric, que ce soit le Premier ministre Benjamin Netanyahou ou son rival centriste Benny Gantz, aucun des deux ténors de la politique israélienne n'a réussi à bâtir une coalition.
Exactement, Stanislas, et voilà pourquoi dans 50 minutes maintenant, la Knesset devrait être dissoute. Les débats se déroulent encore dans un parlement aux trois quarts vides, parce que les députés étudient le projet de loi de dissolution, et aussi ils doivent décider de la date d'une future élection. Ce devrait être le lundi 2 mars ou le mardi 3 mars. La date fait encore débat, parce que normalement ici, on vote le mardi, mais au mois de mars, il y a embouteillage de fêtes religieuses ou civiles le mardi. Donc, plusieurs parlementaires proposent de voter le lundi. Il y a une heure, Benjamin Netanyahou a diffusé une vidéo où il accuse les centristes de bleu-blanc d'avoir bloqué la situation. Il dit qu'il pense maintenant à la prochaine étape, c'est-à-dire les élections qu'il veut gagner largement, et il promet d'annexer la vallée du Jourdain en Cisjordanie et de rattacher des blocs de colonies à Israël. Demain, le Premier ministre se rend dans une école religieuse orthodoxe et nationaliste, dont les fidèles sont violemment contre l'homosexualité et contre les Arabes. Voilà le ton donné du côté de Netanyahou qui, en attendant, reste encore Premier ministre jusqu'au printemps prochain. Car, redisons-le, sauf énorme surprise d'ici minuit en Israël, 23h pour vous en France métropolitaine, eh bien, les Israéliens retourneront aux urnes, soit le 2, soit le 3 mars 2020.
Frédéric Mettezo, en direct de Jérusalem, merci. Il s'agit sans doute d'une nouvelle attaque antisémite meurtrière aux États-Unis. Les tireurs qui ont déclenché hier une fusillade à Jersey City, tout près de New York, ont visé délibérément une épicerie cachère, c'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le maire de la ville. La fusillade a fait 4 morts, en plus des 2 tireurs, un homme et une femme. Une fusillade qui a transformé tout un quartier de Jersey City en scène de guerre pendant plusieurs heures hier après-midi. Roman Polanski sort de son silence 5 mois après avoir été accusé de viol par la photographe française Valentine Monnier. Le réalisateur franco-polonais s'exprime pour la première fois dans les colonnes de Paris Match. Il nie en bloc ses accusations. L'affaire avait éclaté peu de temps avant la sortie du dernier film de Polanski, J'accuse, inspiré de l'affaire Dreyfus. Les précisions d'Anne Chépeau.
On essaie de faire de moi un monstre. Roman Polanski contre-attaque après le témoignage de Valentine Monnier qui l'a accusé de l'avoir violée en 1975 en Suisse alors qu'elle avait 18 ans. Le réalisateur affirme se souvenir à peine d'elle. Je n'ai évidemment aucun souvenir de ce qu'elle raconte puisque c'est faux, plaide-t-il. Dans cette interview, Polanski revient aussi sur l'affaire Samantha Geimer, cette adolescente américaine de 13 ans qu'il est accusé d'avoir violée en 1977. Et surprise, il accuse le producteur Harvey Weinstein au cœur du scandale MeToo d'avoir déterré cette affaire qui, selon lui, n'intéressait plus personne lors de la campagne pour les Oscars de 2003. Pour le réalisateur, Weinstein voulait empêcher son film Le Pianiste d'être récompensé. Polanski affirme par ailleurs qu'il a décidé de parler pour sa famille. Je me suis habitué à la calomnie, mais pour mes enfants, pour ma femme Emmanuelle, c'est épouvantable. Il reconnaît tout de même une part de responsabilité dans ce qui lui arrive. En 1977, j'ai commis une faute et c'est ma famille qui en paie le prix un demi-siècle plus tard.
Anne Chépeau, merci. Plusieurs associations féministes avaient appelé au boycott du dernier film de Polanski, en pure perte semble-t-il. 4 semaines après sa sortie sur les écrans français, J'accuse a déjà attiré près d'1 300 000 spectateurs. Cette dernière minute au Niger, l'armée nigérienne a subi aujourd'hui une attaque djihadiste au bilan particulièrement lourd. On parle de 71 militaires tués et 12 blessés. Il s'agirait de l'attaque djihadiste la plus meurtrière au Niger. Retour en France avec le temps demain, pluvieux et venteux avec l'arrivée par l'ouest d'une nouvelle perturbation. Les pluies seront soutenues sur la façade atlantique. Il neigera sur les Pyrénées puis sur le Massif central. Les régions méditerranéennes devraient rester à l'écart de ce mauvais temps. Les températures minimales seront comprises entre 0 à 8 degrés du nord au sud. Les maximales oscilleront entre 5 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Benjamin Ducie.